Il n'y a plus de loi, crient les meurtriers assemblés autour du bûcher. On peut maintenant tuer un noble comme une mouche ou comme un poulet. Extrait d'un rapport à propos du meurtre de Hautefaille.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 16 août 1870, c'est jour de marché au village de Hautefaille en Dordogne. Depuis 1633, le 14, 15 et 16 août, il y a un marché en particulier de bovins où des maquignons se retrouvent pour parler affaires. Ce jour-là, nous sommes en pleine guerre franco-prussienne. Monsieur Alain de Monéis, un des fils de la famille de Monéis, qui est une vieille famille de l'aristocratie de Dordogne, descend du château pour aller faire quelques emplettes au marché. Or, le bruit se répand que Alain de Monéis a crié « Vive la République et vive les Prussiens !» Ce bruit se répand dans le foirail et provoque la colère des paysans, des maquignons, des commerçants qui se trouvent sur place. À partir de ce moment-là, va se dérouler ce qu'on pourrait appeler un lynchage collectif, où Alain de Monéis est pris à partie. Il est bourré, c'est-à-dire roué de coups de poing, traîné sur le foirail, dans les rues du village, et de plus en plus molesté, au point que sa vie est en danger. Les autorités, ce jour-là, sont quasiment absentes. Il n'y a pas de gendarmes. En général, il y a toujours des gendarmes pour le marché de Hautefaille. Ce jour-là, il n'y en a pas, ce qui montre peut-être d'ailleurs que dans cette période de guerre, finalement, l'autorité de l'État semble vacillante. Il y a le maire. Mais le maire a une attitude pour le moins ambiguë. Les émeutiers, ils sont plusieurs dizaines, peut-être qu'au total, il y a une centaine de personnes qui suivent le malheureux Alain de Monéis, le présentent devant la maison du maire. Celui-ci sort quelque peu, voit déjà un homme extrêmement amoché, demande à ce que, s'il a vraiment crié « Vive la République et vive les Prussiens », eh bien, si c'est le cas, il faudra l'amener au chef-lieu de canton pour qu'il soit enfermé, puis éventuellement jugé. Et il demande aussi que les événements qui ont lieu ne se déroulent pas devant chez lui et qu'on règle ses comptes plutôt sur le foirail. Donc, vous voyez bien que la situation est pour le moins ambiguë de la part du maire. Il y a enfin monsieur le curé. Monsieur le curé sort de son presbytère quand on lui annonce qu'il se passe un drame et qu'un homme est en train d'être lynché. Et il demande aux émeutiers et aux futurs meurtriers de s'arrêter. Et il va, dit-il, déboucher du vin bouché. C'est-à-dire qu'il va déboucher des bouteilles de qualité pour les offrir à tout un chacun et que chacun portera un toast à l'empereur Napoléon III. Donc, monsieur le curé essaye de calmer un peu la situation. On débouche les bouteilles, chacun boit un verre, on crie « Vive l'empereur !» et le malheureux Alain de Monéis le fait également. Mais en fait, cela ne calme qu'un temps, car quelques coups commencent à nouveau à pleuvoir et Alain de Monéis est amené plus loin vers le foirail. Et là, on va achever Alain de Monéis et on va brûler son corps. Une statue de charbon, dira un des témoins à la fin de la crémation. Les témoins d'ailleurs se demandent s'il n'est pas mort avant même de brûler le corps ou si le malheureux n'a pas fini ses jours dans les flammes de ce bûcher. Donc, il s'est bien passé un drame à Hautefaille en ce 16 août 1870, et le grand historien du XIXe siècle, Alain Corbin, a publié un ouvrage extrêmement intéressant, qui est à la fois un ouvrage de politique, de sociologie, de mentalité, qui s'appelle « Le village des cannibales » et qui a donné son titre à la chronique que je vous fais aujourd'hui. Je vous propose donc d'essayer, à la suite d'Alain Corbin, d'éclairer le drame. Pourquoi une foule de paysans, de bouchers, de maquignons s'en prend à ce noble, Alain de Monéis, dans ce contexte très particulier qu'est la guerre franco-prussienne? C'est ce à quoi s'est essayé Alain Corbin. Alain Corbin s'est effectivement essayé à une analyse du drame, car le contexte, les relations sociales, le poids du souvenir et de la mémoire historique peuvent éclairer le drame du 16 août 1870. Nous sommes donc en Dordogne, un département éminemment rural, mais où il y a d'une part un fort sentiment anti-nobiliaire. C'est d'ailleurs dans ce département que le roman d'Eugène Leroy à la fin du siècle, Jacou le Croquant, se déroule. Et effectivement, les paysans, durant tout le XIXe siècle, ont une certaine fantasmagorie de la noblesse. Le bruit court tout au long du siècle, c'est vrai dans les années 1820, mais c'est encore vrai au moment de la révolution de 1848 et encore sous le Second Empire, que la noblesse ne rêve que de rétablir l'ancien régime et de rétablir les droits. Le bruit court même que des nobles locaux voudraient placer des paysans sous le joug, mais au sens strict du terme, c'est-à-dire remplaceraient les bœufs par des paysans qui traîneraient l'arrière. Donc il y a un sentiment effectivement anti-nobiliaire, mais qui se double d'un autre sentiment, celui-ci plus politique. Nous sommes dans une région éminemment bonapartiste. Les campagnes sont globalement, sous le Second Empire, fidèles à l'Empire, et les masses paysannes, qui vivent le régime d'ailleurs comme une période plutôt de prospérité, sont fidèles au régime impérial. Les élections le montrent, et encore, le plébiscite du 8 mai 1870 avait donné dans la région de Hautefaille une très très large majorité au oui en faveur des réformes entreprises par Napoléon III. Il faut dire que le bonapartisme au XIXe siècle est finalement un juste milieu. C'est à la fois un régime protecteur vis-à-vis des partageux, des rouges, dont on craint qu'ils mettent à mal la propriété, mais également c'est une protection contre le retour du château, cette crainte que la paysannerie a eue longtemps de voir un retour des droits qui avaient été supprimés en 1789. Donc vous avez affaire à une société à la fois antinobiliaire et à la fois très attachée au régime impérial. La famille de Monéis, qui est la famille de notables locaux, est de tradition plutôt légitimiste, c'est-à-dire fidèle à la dynastie des Bourbons qui a perdu le trône à la suite de la révolution de 1830. Et puis, la question de ce drame pose aussi la question de la rumeur, puisque Alain de Monéis, qui est un des fils, qui est le fils cadet de la famille, est accusé d'avoir crié « Vive la République !», donc de s'être opposé à l'Empire, et également « Vive les Prussiens !», ce qui est évidemment antipatriotique. Inutile de vous dire qu'il n'a jamais prononcé ces slogans. Mais dans l'ambiance d'inquiétude, car les premières nouvelles de la guerre ne sont pas encore désastreuses, mais ne sont pas bonnes, eh bien, on a cru que véritablement ce noble ne pouvait qu'avoir prononcé ses propos contre la nation et contre l'empereur, et provoquant ainsi une colère qui s'est d'autant plus démultipliée qu'elle était collective, car il s'agit bien d'un lynchage collectif contre Alain de Monéis. Donc voyez, c'est tout un contexte qui peut éclairer le drame. La République, quand elle sera proclamée à la suite de la chute du Second Empire, se montrera d'ailleurs assez impitoyable vis-à-vis des principaux responsables. En effet, le procès aura lieu, et alors qu'en général, la justice du Second Empire était relativement clémente vis-à-vis de ses paysans, eh bien là, on prononcera bien sûr des peines capitales, et elles seront exécutées sur le foirail de Hautefaille. Donc, vous le voyez, c'est bien un drame social-politique qui a eu lieu, et je vous incite, si vous voulez en savoir plus, de vous plonger dans la lecture du livre d'Alain Corbin, « Le village des cannibales ».